Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Texte des Actes des Apôtres, texte de la liturgie catholique romaine pour la fête de Pentecôte. Quand arrive le jour de la Pentecôte, les disciples sont tous ensemble au même endroit. Soudain, il vient du ciel un son fracassant comme un vent violent qui se met à souffler. Il remplit toute la maison où ils sont assis. Alors leur apparaissent comme des langues de feu qui se partagent et ils s'imposent sur chacun d'eux. Tous sont remplis du souffle saint et ils se mettent à parler en d'autres langues, comme le souffle spirituel leur donne de s'exprimer. Or, à Jérusalem habitent des Juifs pieux, originaires de toutes les nations qui sont sous le ciel. Quand cette voix retentissante se produit, une foule se rassemble. Elle est en pleine confusion car ils les entendent parler chacun dans sa propre langue. Ils sont stupéfaits, ils s'étonnent et disent
« Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que nous les entendons chacun dans la propre langue dans laquelle nous sommes nés ? Partes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée et la Cappadoce, le Pont et l'Asie, la Phrygie et la Pamphylie, l'Égypte et les contrées de la Libye cyrénaïque, et les Romains qui résident ici, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons dans nos langues parler des merveilles de Dieu. »
Tous ils sont stupéfaits et ils se disent l'un à l'autre, tout perplexes.
« Qu'est-ce que cela peut signifier ?»
D'autres se moquent en disant qu'ils sont pleins de vin doux. Pierre, avec les onze, se lève et il élève la voix pour s'adresser à eux.
« Hommes de Judée, et vous tous qui habitez Jérusalem, vous devez connaître cela, prêtez l'oreille à mes paroles. Jésus, le Nazoréen que Dieu a désigné pour vous, par des miracles, des prodiges et des signes que Dieu a fait par lui au milieu de nous, Jésus, vous l'avez supprimé en le faisant crucifier par la main des sans-lois. Ce Jésus, eh bien Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Que tout le peuple d'Israël le sache avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. » Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges. Eh bien Georges, est-ce que ce n'est pas un récit très surprenant pour nous, gens du XXe siècle? Que peut bien signifier ce décor qui est digne de la machinerie d'un théâtre d'opéra?
Oui, c'est vrai, il nous faudra tenter de peut-être mieux comprendre les images symboliques de cette manifestation de Dieu. Quel sens peuvent bien avoir ces langues de feu qui font parler dans la langue des autres? Ce récit n'est pas dans les évangiles, il se trouve dans les Actes, et les Actes des Apôtres, c'est le deuxième livre que Luc a écrit, un livre qui fait suite au récit évangélique. Mais citons d'abord l'événement. Il se déroule lors de la fête juive de la Pentecôte. La Pentecôte est un mot grec qui signifie 50. Cette fête de Pentecôte est célébrée en effet 7 semaines, cette fois 7, 49, après la Pâque. C'est donc le 50e jour après la Pâque, et les Juifs célébraient en ce jour-là autrefois la fête de la moisson des blés. Mais on avait rajouté à cette fête plutôt païenne la mémoire de l'alliance du Sinaï, où Jésus a reçu la charte du peuple de Dieu, la Torah. Au chapitre 19 du livre de l'Exode, on décrit cette célébration de l'Alliance.
Moïse convoqua tous les anciens du peuple. Il exposa devant eux toutes les paroles que le Seigneur lui avait données. Tout le peuple répondit d'un même cœur, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. »
Voilà donc comment fut scellée entre Dieu et ses fidèles une alliance et une communion, et un commentaire juif soulignait cette unanimité de tous les fidèles du peuple.
Lorsqu'ils étaient tous au mont Sinaï pour recevoir la Torah, ils étaient tous un seul cœur pour accepter avec joie la règle du règne de Dieu.
Et cet engagement dans l'alliance, eh bien la fête de Pentecôte va le renouveler chaque année en invitant tout être, tout juif, à faire serment d'être fidèle aux paroles de Dieu. Si Luc reprend des éléments de la description de l'Alliance dans l'Exode, c'est pour faire de ce jour de Pentecôte la célébration non plus de l'Alliance du Sinaï, mais la célébration de l'Alliance nouvelle qui a été scellée en Jésus, par Jésus. Et lui aussi note que les disciples sont tous ensemble dans le même lieu. Et dans le premier chapitre, au verset 14, il a d'ailleurs écrit
« Tous, d'un même cœur, sont persévérants dans la prière. »
Mais reprenons le récit de l'Exode. Qu'est-ce que nous lisons dans ce récit?
Dès le matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, un son de cor très fort. Le mont Sinaï était tout fumant. Le Seigneur était descendu sur la montagne dans le feu.
Alors on remarque que nous avons là aussi des éclairs et puis un son de cor très fort. C'est sur cette montagne que Dieu, en effet, donne à Moïse les 10 grandes paroles de la Torah. Alors comment comprendre le lien entre les tonnerres, les éclairs, et puis le don des 10 paroles de la Torah? Eh bien, on peut mieux comprendre ce lien en lisant les commentaires juifs qu'on appelle les Targoum. Ils vont faire, en effet, des descriptions de l'événement qui vont mieux nous faire comprendre le récit de Luc. Mais avant peut-être de lire les Targoum, précisons ces mots juifs que nous utilisons. Le mot Torah, on le traduit habituellement par loi, mais ce mot a plutôt le sens d'un enseignement qui indique une direction. C'est ce qui est prescrit pour marcher dans le droit chemin. On ferait mieux sans doute de traduire, ou bien de ne pas traduire Torah, et de dire Torah tout simplement, ou bien de le traduire par règle, la règle de vie d'une vie qui va être droite selon l'enseignement de Dieu. Et les Targoum, eh bien, ce sont les traductions en araméen que les paraclets faisaient de la Bible. À la synagogue, en effet, le texte sacré était lu en hébreu, et c'était celui qu'on appelait le paraclet qui traduisait ce texte en araméen, qui était la langue comprise par le peuple. Cette traduction était souvent, d'ailleurs, plus qu'une traduction, une sorte d'interprétation, de commentaire. Alors lisons un commentaire qui est tiré du Targoum Yerushalmi.
Lorsque la première parole sortit de la bouche du Dieu Saint, c'était comme des éclairs et des lampes de feu, une lampe de feu à sa droite et une lampe de feu à sa gauche. L'éclair volait dans l'air des cieux et se gravait dans les deux tables de l'Alliance. Et la voix disait aux enfants d'Israël, « Mon peuple, je suis le Seigneur votre Dieu, qui vous ai libéré de la servitude. » Et la deuxième parole, lorsqu'elle sortit de la bouche du Dieu Saint, c'était comme un éclair.
Et le texte du Targoum Yerushalmi va faire la même description pour chacune des 10 paroles qu'il ne l'a fait pour la première. L'Exode disait « Tout le peuple voyait les tonnerres et les éclairs ». Et l'écrivain juif Philon commente ainsi.
« Une voix retentissait du milieu du feu venu du ciel, dont la flamme se transformait en langage adapté aux auditeurs. » Les paroles étaient si claires qu'on avait l'impression de les voir.
Il faut bien noter tout ça. Les paroles étaient si claires qu'on avait l'impression de les voir. Un autre commentateur, Johanan, va préciser.
La voix sortit et se partagea en 70 voix, en 70 langues, de façon que tous les peuples l'entendent. Et chaque peuple entendit la voix dans sa propre langue.
Alors on voit mieux ici le lien entre les éclairs et la voix de Dieu. Et on comprend comment ce commentaire a pu inspirer Luc pour traduire cette expérience spirituelle que vont faire les disciples dans la fête juive de la Pentecôte. Cette fête rassemblait à Jérusalem un grand nombre de pèlerins, ceux qui viennent de la Judée et de la Galilée, bien sûr, toute proche, mais aussi ceux qui venaient de tous les pays de la Méditerranée où les Juifs avaient émigré pour faire du commerce. Ces pèlerins qui sont à Jérusalem sont donc ou juifs de naissance, ou des païens convertis. Luc y ajoute aussi des Romains, donc des païens, qui font partie de l'armée d'occupation, puisque, on le sait, le pays est occupé par Rome depuis près de 100 ans. Au jour de l'Ascension, Luc a bien souligné la mission donnée par Jésus, proclamer le message de conversion et de pardon à toutes les nations. Eh bien, en ce jour de Pentecôte, à Jérusalem, il y a des représentants de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et c'est donc le symbole que le message est bien annoncé à tous les êtres humains.
Georges, peut-on penser que pour décrire cette nouvelle Pentecôte, Luc va donc reprendre ces images de l'Exode?
Oui, et ça, c'est d'ailleurs un procédé qui est fréquent dans les livres bibliques. On utilise des images qui parlent aux gens auxquels on s'adresse. Et c'est pourquoi cette présence de l'Esprit divin est décrite par Luc par un fracas, une voix retentissante, puis par l'apparition de langues de feu. Mais, remarquons-le bien, les langues de feu qui, dans le commentaire qu'on a lu tout à l'heure de l'Exode, symbolisait les paroles de la Torah. Dans le texte de Luc, ces langues de feu vont symboliser non plus les paroles de Dieu, mais la venue du souffle de Dieu qui vient remplir chacun des disciples. Alors comment va se faire ce passage des paroles de la Torah à l'Esprit divin? Eh bien, souvenons-nous peut-être des prophètes. Lisons Jérémie au chapitre 31.
« Voici que viendront des jours où je conclurai une alliance, une nouvelle alliance. Je déposerai mes directives au fond des êtres en les inscrivant sur leur cœur. »
Et plus tard, le prophète Ézéchiel dira au chapitre 36.
« Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un souffle spirituel nouveau. J'enlèverai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre souffle spirituel. » Et je vous ferai marcher selon mes préceptes.
Oui, les prophètes se sont tous rendus compte qu'il ne suffisait pas que Dieu donne des préceptes, un enseignement, mais qu'il fallait qu'il donne aussi la force d'accomplir cet enseignement en donnant son propre esprit. Eh bien, dans ce jour de Pentecôte qui suit le départ de Jésus, c'est donc l'accomplissement des Écritures, l'accomplissement des prophéties. L'Esprit, le souffle d'amour promis par Jésus pour sceller la nouvelle alliance, se manifeste. C'est en effet maintenant une alliance nouvelle qui ne repose plus seulement sur l'observance honnête des préceptes, mais sur une communion d'esprit avec le Père. Comme Jésus a vécu, inspiré par le souffle de Dieu, ainsi va-t-il donner à ses disciples de vivre par son esprit qu'il insuffle en eux. Ce qui fait vivre le disciple en fils, en fille de Dieu Père, ce n'est pas seulement d'observer des commandements, mais c'est une communion de volonté, une communion d'esprit. C'est une recherche commune avec Dieu de ce qui est bon et de ce qui nous fait grandir comme un être libre et aimant.
Ils se mirent à parler en d'autres langues. Est-ce qu'il s'agit ici du phénomène du parler en langue dont nous trouvons des expériences dans les groupes charismatiques d'aujourd'hui?
Paul déjà a parlé de ce phénomène charismatique dans la lettre aux Corinthiens. Il s'agit en effet de gens qui profèrent des sons qui sont souvent harmonieux, mais aussi souvent inintelligibles et qui doivent être interprétés par quelqu'un qui a reçu le don d'interpréter ces paroles.
Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'assemblée. Je souhaite que vous parliez tous en langue, mais je préfère que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est supérieur à celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'en donne l'interprétation pour que l'assemblée soit édifiée. Supposez que je vous parle en langue, en quoi vous serais-je utile? Si ma parole ne vous apporte ni révélation, ni connaissance, ni prophétie, ni enseignement. Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile.
Dans cet événement de la Pentecôte, tel que Luc le décrit, il ne s'agit donc pas tellement de ce phénomène dont nous venons de parler, car ce sont les paroles qui, les apôtres qui parlent en d'autres langues, et chacun les entend parler dans sa langue.
Nous les entendons parler en nos langues des merveilles de Dieu. Quel est le sens de ce symbole?
Mais ce message de conversion et de pardon dont les disciples de Jésus vont être les témoins devra être annoncé et vécu dans la langue de chacun. On dirait aujourd'hui dans sa culture. Le message d'amour et de bonté doit rejoindre chaque personne dans ce qu'elle vit, dans ce qui fait son univers personnel. Le missionnaire de Jésus doit rejoindre chaque personne en parlant son langage, en communiant à ce qui fait sa vie, à ce que sont ses joies et ses peines, à ses valeurs et à ses espérances. On dit, on connaît le proverbe, l'adage, pour apprendre le latin à John, il ne faut pas seulement connaître le latin, il faut aussi connaître John. Eh bien, pour apprendre l'évangile à Jean, il faut bien sûr connaître l'évangile. Et on ne connaît vraiment l'évangile que si on en vit quotidiennement. Mais connaître l'évangile ne suffit pas, il faut aussi connaître Jean. Et connaître Jean, c'est devenir capable de le rejoindre dans son langage, dans ses intérêts, dans sa recherche. Mais la connaissance de l'autre n'est pas vraie si elle ne va que dans un seul sens. Connaître l'autre, c'est partager ce qui le fait vivre, mais aussi ce qui nous fait vivre, dans un dialogue qui est à la fois nourri d'un intérêt vrai et respectueux pour ce que l'autre pense et vit, mais aussi dans un dialogue où chacun est passionné de partager le message de Jésus en témoignant de la joie que ce message met en notre cœur.
Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous ensemble témoins. Que tout le peuple d'Israël le sache avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ.
Oui, il faut témoigner de Jésus. Mais quand il s'agit d'être témoin d'une personne qu'on aime passionnément, eh bien témoignage rime avec respect et avec discrétion. On ne témoigne pas de Jésus comme un vendeur qui vend un produit dont il vante la qualité. Le chrétien n'est pas celui qui apporte le Christ aux autres. Il faut bien le dire, mais celui qui, avec une infinie pudeur, rayonne de son amour pour lui. Ou plutôt, il rayonne de l'amour dont il se sait aimé par le Christ. Maurice Handel traduisait cela de cette manière.
C'est par là que nous serons universels, que nous n'imposerons rien, que nous ne prétendrons à rien, que nous ne voudrons rien réformer, rien enseigner. Car il n'y a pas enseigné l'amour, ni enseigné une personne. Il y a à la rendre présente dans la totale démission de toi, de soi. Parler la langue des autres, c'est donc partager la vie de ceux et celles qui nous entourent pour y retrouver la présence de ce souffle spirituel qui vient de Dieu.
Oui, et cela doit se faire dans le vécu le plus ordinaire et le plus quotidien. Un geste humain plein de bonté, eh bien le disciple de Jésus doit y voir l'Esprit de Dieu qui fait vivre ce frère, même si ce frère ne connaît pas Dieu. Un geste de pardon généreux, le disciple de Jésus peut y voir l'Esprit de Dieu qui anime cette sœur, même si elle est d'une autre religion. C'est en effet là, dans le cœur de ce frère et de cette sœur que Dieu se trouve, c'est là que nous pouvons le rejoindre. Parler la langue de l'autre, c'est donc développer avec lui des liens d'amitié gratuites. C'est aller au-delà des impressions superficielles, ces impressions qui caricaturent ce qu'est l'autre et qui nous empêchent de le connaître en ce qu'il est véritablement, intérieurement. Parler la langue des autres, c'est aussi être solidaire de leurs souffrances, partager leur lutte pour plus de justice. Ce dialogue, cette solidarité entre croyants de diverses religions, entre croyants et incroyants, eh bien voilà un témoignage qui nous est demandé comme disciples de Jésus. C'est la première pierre à poser pour bâtir la paix, pour travailler à ce que le règne du Dieu d'amour et de communion vienne sur terre. Oh, lisons quelques extraits d'une lettre des patriarches catholiques d'Orient, écrite il y a 3 ans, à propos du dialogue entre chrétiens et musulmans.
Nous disons aux chrétiens, Libère-toi des illusions et de l'ignorance, et efforce-toi de comprendre ce qu'est l'islam et qui est le musulman. Ne t'arrête pas à des clichés colportés ou à des informations superficielles qui déforment la vérité. Cherche ce qui est positif et qui peut t'aider à la collaboration. Aux musulmans, nous disons de même, libère-toi des illusions et des préjugés. Efforce-toi de connaître ce qu'est le christianisme et qui est le chrétien. Ne te contente pas d'idées superficielles et déformantes. Essaie de voir la réalité vécue au jour le jour afin de connaître ce qui se passe et afin de pouvoir prévenir les heurts et répandre la tranquillité dans toute la société.
Et aux chrétiens et aux musulmans, ensemble, nous disons, vous n'êtes pas des ennemis l'un pour l'autre. Aucun de vous ne constitue une menace pour l'autre dans son existence ou un obstacle pour sa croissance. Au contraire, l'autre est le frère, l'ami, le voisin et le partenaire. Par ses richesses, tu t'enrichis et à mesure qu'il croîtra, tu pourras croître. Eh bien, nous pourrions appliquer ce texte, bien sûr, à la situation actuelle des Balkans. Mais tout cela, on le voit, requiert un dialogue permanent, une rencontre fraternelle pour se reconnaître l'un et l'autre loin des catégories toutes faites et des idées préconçues. Oui, ce qui est dit de ce dialogue chrétien-musulman peut aussi être valable pour le dialogue d'abord entre chrétiens, mais aussi pour le dialogue entre voisins d'une même rue, d'une même ou entre compagnons de travail, et même entre les membres d'une même famille. Et appliquons-le ici aussi, pour le dialogue entre gens de races différentes dans notre propre pays. Au-delà des disputes de famille, au-delà des conflits entre compagnons de travail, au-delà des querelles entre gens d'options politiques différentes, l'Esprit de Dieu veut faire l'unité de tous, en respectant chacun, dans sa propre personnalité, dans sa diversité. Oui, chaque année, 40 000 personnes immigrées viennent s'établir dans la grande région de Montréal. Eh bien, c'est là un merveilleux chantier où la Pentecôte peut se vivre par les chrétiens. Sans cette immigration, nous ne connaîtrions pas de près les croyants de l'hindouisme, du bouddhisme et de l'islam. Certains de ces immigrants, certes, parviennent à bien s'intégrer, mais d'autres ont de grandes difficultés et vivent une certaine exclusion. Pour nous, disciples de Jésus, l'étranger doit être avant tout une personne, quelqu'un qui a besoin d'un minimum de sécurité, de tendresse, de respect et d'amour. La fraternité à laquelle nous appelle l'Évangile nous invite à découvrir que nous sommes semblables, que dans l'autre, il y a quelque chose de moi, que dans l'autre, il y a quelque chose de Dieu.
On prêchera la conversion et le pardon à toutes les nations.
Voilà comment Luc définissait la mission confiée par Jésus à ses disciples dans son récit évangélique. Cette mission d'unité est inséparable en effet de la mission de réconciliation. Pour réunir dans l'unité, pour apporter la paix entre les hommes et dans les cœurs, il ne suffit pas de crier ciseaux ou de chanter des alléluia. Le monde est un monde où le mal règne. La bonté n'est pas toujours contagieuse. La non-violence de Jésus, celle de Gandhi, de Luther King, on le sait, a aussi appelé la violence de ceux qui les ont mis à mort. Eh bien, le disciple de Jésus n'est pas meilleur que ses prochains. Tous nous sommes pécheurs, mais tous nous sommes capables d'accueillir l'Esprit de Dieu, cet Esprit qui est pardon et paix, et dont la résurrection de Jésus nous assure qu'il est plus puissant que l'Esprit du mal. Il nous faut pour cela demeurer en Dieu, demeurer dans la prière, pour que vienne en nous cette force d'en haut qui nous revêt de la puissance de Dieu. Cette force divine nous est donnée, à nous, comme à tous les êtres qui l'accueillent. Et Jésus lui-même ne devra jamais être considéré par les chrétiens comme leur propriété. Comme le souffle, il se donne à tous ceux qui respirent. Comme la lumière, il se donne à tous ceux qui ouvrent les yeux. Comme l'amour, il est au cœur de tous ceux qui aiment.
Ô Dieu de vérité, toi que les hommes divers nomment de divers noms, mais qui es l'unique et le même. Tu es celui qui est, et tu es en tout ce qui existe, et tu es dans l'union de tous ceux qui s'unissent. Tu es dans la hauteur et dans l'abîme, dans l'infini des cieux et dans l'ombre de chaque cœur. Que te demander, sinon de t'aimer assez pour aimer tous ceux qui t'aiment et t'invoquent comme nous? De t'aimer assez pour aimer ceux qui te prient et te pensent autrement que nous? De t'aimer assez pour aimer ceux qui t'ignorent et ceux qui te rejettent parce qu'ils te méconnaissent? Donne-nous le goût de te connaître à travers les autres, parce qu'ils sont chacun un reflet de toi. Et mets en nous cette soif de fraternité universelle que tu nous feras vivre au-delà du temps, pour toujours. Amen. C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du Catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
Le 514-254-8750. Vous pouvez aussi utiliser notre télécopieur, le 256-1106. Vous nous trouverez aussi sur Internet. Téléphonez-nous, nous vous donnerons l'adresse exacte de notre site.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Luc Chandonnet.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine. Ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.